Alors, nous en sommes au livre des rois. La dernière fois, on a fait le deuxième livre de Samuel et on est allé jusqu'à la mort du roi David, alors en fait, qui empiète un petit peu sur le début du livre des rois. On voit bien que la coupure entre les livres de Samuel et les livres des rois, elle est manifestement artificielle. Ce ne sont pas des livres qui ont été écrits indépendamment les uns des autres. Samuel et roi ne forment qu'un seul ensemble. Je l'avais dit d'ailleurs que dans la version grecque, par exemple, ce sont les livres des règnes, 1, 2, 3, 4 règnes. Donc on considère vraiment qu'il n'y a qu'un seul livre, divisé en 4 parties. Il se trouve que nous, aujourd'hui, on a d'un côté 1, 2 Samuel, de l'autre côté 1 et 2 rois. Il faut vraiment les lire dans la continuité. Donc on a vu déjà la dernière fois la mort de David et puis le début du règne de Salomon. Au chapitre 2, David meurt vraiment et Salomon fait un petit peu le ménage, hein. Il se débarrasse d'Adonias, chapitre 2, verset 13, etc. On voit un petit peu, il chasse Abiathar au verset 27. Il se débarrasse également de Joab, verset 28, etc. etc. Et donc, les premiers chapitres vont être focalisés sur Salomon lui-même. Salomon va être le personnage central du premier livre des rois jusqu'au chapitre 11. Hein, donc c'est ça, il faut, quand vous regardez le livre des rois, grosso modo, vous avez trois sections du premier livre des rois. La première partie, c'est Salomon lui-même, chapitre 11, jusqu'au chapitre 11. Ensuite, vous avez les récits de règne des rois d'Israël et de Juda. Il va y avoir le schisme, on va y venir. Et ensuite, vous aurez une chronologie synchroniste. Et puis ensuite, dans la troisième partie du livre, c'est les chapitres 17 à 22, c'est le prophète Élie. Donc vous avez deux personnages centraux, Salomon au début, Élie à la fin, et puis au milieu, des successions de règnes. Élie va également empiéter au début du deuxième livre des rois. C'est souvent comme ça, on empiète sur le début du livre suivant. Donc retenez bien ça, deux personnages centraux, Salomon, Élie. Donc Salomon, c'est jusqu'au chapitre 11. Alors évidemment, il y a plein d'histoires, on ne va pas s'arrêter sur chacune des histoires de Salomon. Il est célèbre, Salomon est célèbre pour sa sagesse. Il s'illustre au chapitre 3 par sa sagesse parce qu'il a fait cette prière. Regardez au chapitre 3, verset 9. Salomon prie, donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Donc ce que Salomon demande, c'est la sagesse, d'avoir cette intelligence, cette sagesse pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal et d'être un bon gouverneur pour le pays. Et puis, effectivement, Dieu est content de cette prière parce qu'il lui dit au verset 11, c'est là ce que tu demandes, tu ne demandes pas pour toi une longue vie, tu ne demandes pas pour toi la richesse, tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, tu demandes pour toi l'intelligence afin d'être attentif à l'équité. Donc Dieu est vraiment content et dit alors non seulement effectivement verset 12, je te donnerai un cœur sage et intelligent, mais en plus de ça, du coup, il lui donnera aussi ce qu'il n'a pas demandé, à savoir la richesse et le pouvoir. Alors évidemment, on est dans des superlatifs, on est dans de l'extrême, dans de l'hyperbolique. Au verset 12, il dit « Il n'y aura jamais eu comme toi, il n'aura jamais eu avant toi et il ne se lèvera jamais plus après toi, personne de semblable à toi. » Ouf, c'est quand même fort, il est vraiment unique. Alors c'est drôle parce que, on a à peu près la même phrase à propos de Moïse. Hein, où on dit, il n'y a jamais eu personne avant ni personne après comme Moïse. Alors, faut savoir, parce que on dit ça à propos de Moïse, et puis maintenant on dit ça à propos de Salomon. On se rend bien compte qu'ils peuvent pas tous les deux avoir la palme. Donc, on voit que c'est du vocabulaire hyperbolique, évidemment. Alors ensuite, évidemment, on a la mise en pratique. Dans la deuxième partie du chapitre 3, on a un exemple, une petite anecdote où Salomon s'illustre par sa sagesse. C'est l'histoire des deux femmes qui se battent pour un enfant et il propose de couper l'enfant en deux. Évidemment, c'est une astuce pour savoir qui est la vraie mère de l'enfant. Le chapitre 4 nous donne une liste de fonctionnaires. C'est des documents administratifs qui ne sont pas forcément d'un grand intérêt d'un point de vue théologique. D'un point de vue historique, c'est intéressant. Ça nous informe sur l'administration du royaume. C'est aussi un des textes qui penche en faveur de l'historicité du roi Salomon. On n'a pas de preuves archéologiques. Salomon n'est pas mentionné en archéologie, en épigraphie. Donc on peut se poser la question, a-t-il existé ? Vraisemblablement, il a existé. Et on intègre dans les rédacteurs de ces livres, intègrent comme ça de temps en temps des éléments qui sont soit des inventaires, soit des listes comme ça de fonctionnaires, de préfets. Donc on voit un petit peu l'administration du royaume à l'époque de Salomon. Donc ça fait partie des textes qui semble plaider en faveur de l'historicité du roi Salomon. Le fait que le roi Salomon ait existé, ça ne veut pas dire pour autant que c'était l'homme le plus sage de toute la Terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Je fais une distinction entre la question de l'existence historique du roi Salomon et on peut croire en l'existence historique du roi Salomon sans forcément adhérer pleinement à la vision hyperbolique que nous apportent les textes bibliques. Effectivement, dans le chapitre 5, on nous donne l'étendue de son royaume. Chapitre 5, on dit « Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve », alors le fleuve c'est l'Euphrate évidemment, « le pays des Philistins jusqu'à la frontière d'Égypte ». Donc c'est un royaume immense. Verset 4, il exerçait son autorité sur toute la transeuphratène, donc de tout l'ouest de l'Euphrate. Ça représente une zone, c'est toute la Syrie, la Jordanie, le Liban, l'Israël actuel, etc., jusque le désert du Sinaï, puisqu'on va jusqu'en Égypte. Donc imaginez la taille de son royaume. Là, c'est un petit peu difficile à accepter comme ça, sans preuve archéologique. Par ailleurs, vous voyez, verset 10, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse de l'Égypte. Il était plus sage qu'aucun homme, etc. etc. Bon. Donc, il a prononcé, verset 12, 3000 maximes, ses chants sont au nombre de 1005. Alors, je ne sais pas si c'est 1005 ou 5000, je ne sais pas s'il y a une erreur dans le texte, même si c'est 1000, pareil, il faut beaucoup travailler pour faire tout ça. Bref, alors ensuite, on nous parle un petit peu de l'organisation du royaume, y compris l'organisation des corvées à la fin du chapitre 5. Et puis enfin, le gros bloc qui est intéressant à l'époque du roi Salomon, c'est les chapitres 6 à 8. 6, 7, 8 s'intéressent à la construction du temple de Salomon. Et c'est important puisque c'est le premier temple. Vous savez que le roi David voulait construire une maison, il n'y avait pas de temple, il y avait le sanctuaire mobile de l'époque de Moïse, etc. Il s'est baladé à l'époque des juges, mais pour l'instant, dans la narratologie biblique, il n'y a pas de temple à Jérusalem. Et David voulait construire le temple, finalement c'est Salomon qui va bâtir le temple. Alors on nous donne, dans les chapitres 6, 7, 8, on nous donne des précisions sur l'architecture, le mobilier du temple, etc. etc. Bon, je passe les détails là-dessus. Ce sont encore des chapitres intéressants qu'on peut mettre en parallèle avec ce qu'on sait de l'architecture de l'époque. Par exemple, tout récemment, sur un site archéologique de Khirbet Keyafa, qui est un site à la frontière entre la Judée, c'est dans la Shephela, donc c'est un petit peu la frontière entre la Judée et la Philistie, si vous voulez, eh bien, on a retrouvé des sanctuaires miniatures. Ça, on en connaissait ailleurs, en Jordanie notamment, mais à ma connaissance, pas en Israël. Donc, ils ont été présentés en 2012, donc c'est tout frais, ce que je vous dis. Et ils sont de petite taille miniature, comme ça, c'est certainement des petits hôtels, des petits... Et donc, mais c'est intéressant parce qu'on voit justement des éléments architecturaux qui se retrouvent dans les récits de la construction du temple de Salomon, par exemple les deux colonnes, les triglyphes, etc., etc. Donc, pour ceux qui s'intéressent à l'architecture du Proche-Orient ancien, c'est intéressant. Au chapitre 8, il y a la consécration. Alors, c'est un chapitre, là, pour le coup, très important d'un point de vue théologique, puisque ça va être la dédicace du temple et donc la prière de dédicace. Alors, elle sera encore autre chose quand on en verra le livre des chroniques, mais on a des chapitres qui sont très lourds de sens au niveau théologique. Chapitre 8, verset 22. Salomon se tint devant l'autel du Seigneur en face de toute l'assemblée d'Israël. Il tendit les mains vers le ciel. Donc on voit les positions qu'on connaît encore aujourd'hui dans la liturgie. On lève les mains. Et il dit, Yahvé, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni dans le ciel, ni en haut, ni dans le ciel en haut, ni sur la terre en bas. Et donc, il annonce la suprématie de Yahvé. Et puis surtout, ce qui est très intéressant au niveau du rapport au temple, au bâtiment, verset 27, donc il explique que Dieu lui a permis de bâtir cette maison, mais verset 27, mais Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Le ciel et le ciel du ciel ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Et donc Salomon dit finalement, je bâtis une maison pour Dieu, mais ce n'est pas sa résidence principale, si vous voulez. Concrètement, Dieu ne va pas habiter dans cette maison. Alors qu'on voit dans un certain nombre de liturgies ou de mythologies du Proche-Orient ancien, c'est vraiment la maison du Dieu, il y réside, on vient, on lui apporte à manger, il dort, enfin bref, il fait tout, quoi, c'est sa maison. Alors que là, on dit, non, pas du tout, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu, donc combien moins la maison, une petite maison comme ça qui est bâtie à Jérusalem. Donc ça, c'est vraiment intéressant. D'avoir cette notion de cette transcendance divine. Alors il n'est pas vraiment, il n'est pas encore question d'omniprésence, mais en tout cas il est question de transcendance. Donc pour lui, la résidence divine, elle est dans le ciel. Et donc Dieu entend. On retrouve ça à la fin du verset 30. Toi, tu entendras en ce lieu que tu habites, dans le ciel. Et ça devient comme un refrain dans toute sa prière. On le retrouve au verset 32. Toi, tu entendras dans le ciel. Verset 34. Toi, tu entendras dans le ciel. Verset 36. Toi, tu entendras dans le ciel. Verset 39. Toi, tu l'entendras dans le ciel, le lieu que tu habites. Verset 43, toi tu entendras dans le ciel le lieu que tu habites. Verset 45, tu entendras dans le ciel. Verset 49, tu entendras dans le ciel le lieu que tu habites. Vous voyez donc toute cette prière, cette fabuleuse prière de Salomon qui est vraiment un texte théologiquement passionnant et en plus ponctué, rythmé par ce refrain qui revient et qui insiste sur le fait que finalement le lieu que Dieu habite, sa demeure, c'est pas du tout le temple, c'est le ciel. Alors même qu'on est au moment de la dédicace du temple. Donc ce serait justement le moment idéal de dire, ben voilà, c'est ta maison, c'est là que tu habites. Eh bien, pas du tout. Le refrain répète à plusieurs reprises que précisément non, Dieu n'habite pas le temple. Voilà, donc à la fin du chapitre 9, qui est une sorte d'épilogue du cycle de Salomon, propose un encadrement par rapport au chapitre 3 qu'on avait vu au début, puisque il y a de nouveau, comme au chapitre 3, il a de nouveau une apparition. Vous voyez, au chapitre 3, il y a eu cette prière. Dieu était apparu en songe à Salomon, chapitre 3, et c'était là que Salomon avait demandé justement un cœur intelligent. Eh bien, on a de nouveau la même chose au chapitre 9. Verset 2, le Seigneur apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Effectivement, au chapitre 3, c'était déjà au verset 4, c'était déjà, verset 4-5, vous voyez, c'était déjà à Gabaon que Dieu était apparu à Salomon. Donc vous voyez que ces deux apparitions de Dieu à Salomon, à Gabaon, forment un encadrement du règne de Salomon, en tout cas dans sa belle période, disons, on est à l'apogée du règne de Salomon. Et donc il lui réitère des promesses, verset 5, chapitre 9, verset 5, « J'établirai pour toujours ton trône royal en Israël, selon ce que j'ai dit à David ton père, tu auras toujours un successeur sur le trône d'Israël. » Et là on fait référence à 2 Samuel chapitre 7, on l'avait vu la dernière fois, qui est un passage extrêmement important, puisque c'est la promesse d'une dynastie, le fait que David aura comme successeur un de ses fils, qui aura lui-même comme successeur un de ses fils, etc., etc. Et ce sera éternel. Donc on a la réitération de la promesse d'une dynastie éternelle, et c'est à partir de cette promesse de 2 Samuel 7 qu'on retrouve réitérée ici, que va se développer bien plus tard, hein, plusieurs siècles après, cette idéologie du Messie qui est celui qui est le Messie royal, qui est celui qui a été choisi par Dieu pour être à la tête du peuple et qui doit être un descendant de David, un fils de David. Et ça va se retrouver jusque dans le Nouveau Testament, puisque Jésus, il est fils de David. Et on le voit à plusieurs reprises, hein, y compris quand on crie, quand le pauvre crie à Jésus, « Fils de David, aie pitié de moi », on l'appelle fils de David. Bon, c'est devenu un titre messianique royal. Donc là, là encore, ce sont des passages vraiment importants. Alors ensuite, chapitre 9, la deuxième partie du chapitre 9, est une sorte de résumé, là encore, de choses de l'administration du royaume de Salomon. Alors cela dit, il y a des choses intéressantes d'un point de vue historique ou archéologique. Par exemple, chapitre 15, on explique il est question de la muraille de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et Gezer. Vous avez ces trois villes outre Jérusalem, dont il est question de la muraille, et en fait, dans les fouilles archéologiques, on a retrouvé des portes à triple tenaille. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails archéologiques, si on va en Israël, je vous montrerai sur place, c'est beaucoup plus facile quand on est sur place sur les sites, mais c'est des caractéristiques architecturales où quand on rentre, la porte de la ville est profonde, et il y a une sorte de sas, si vous voulez, des chambres à l'intérieur du mur. Le mur est très épais, c'est des murs à casemates, et donc on rentre comme ça. Et quand les archéologues ont fait des fouilles, ils ont trouvé qu'il y avait le même schéma, justement, dans les fouilles de Hatzor, Megiddo et Gezer, sur ces trois sites archéologiques-là. Et donc, ça, c'est ce qui a permis à l'époque de dire, mais finalement, peut-être que ça correspond à la période du roi Salomon. Alors aujourd'hui, il y a d'autres théories de datation de ces sites archéologiques qui les dateraient de 50 ans plus tard, à peu près, disons, un demi-siècle plus tard que Salomon. Donc peut-être, finalement, ce ne serait pas de l'époque de Salomon. Peut-être ce serait un petit peu après. C'est pas grave. Moi, je suis pas à 50 ans près, ça me dérange pas. Pour des gens qui ont une idéologie fondamentaliste, ce serait grave pour eux si on disait que c'était pas Salomon qui avait fait tout ça. Mais d'un point de vue archéologique, en soi, c'est pas vraiment un problème. Donc tout va bien jusque-là, sauf que malheureusement, si Salomon mourait à ce moment-là, ce serait formidable. Mais seulement, il meurt pas à ce moment-là. Et la fin de sa vie va mal se passer au chapitre 11. Alors oui, au chapitre 10, quand même, il y a l'épisode de la reine de Saba. Évidemment, alors ça, c'est un épisode fabuleux. La reine de Saba, elle vient de loin. Et puis, elle entend parler de la réputation, de la sagesse. Elle vient le mettre à l'épreuve par des énigmes. Et puis, finalement, Salomon répond et tout. Enfin, bref, elle est bluffée par sa sagesse. On nous dit, verset 5, elle en eut le souffle coupé. Voilà. Et elle dit, verset 7, tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me l'avait laissé entendre. Donc, c'est bien quand ça va dans ce sens-là. Sa réputation le précède et même il surpasse sa réputation. Alors évidemment, cet épisode, il est assez bref. Dans toute la littérature juive, chrétienne et même musulmane, on va développer cette histoire, forcément. Il a dû se passer quelque chose, elle est venue, elle est tombée amoureuse de lui, ils ont vécu une passion amoureuse, etc. Enfin, vous imaginez bien tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut développer comme tradition. Et dans certaines traditions, elle tombe enceinte, elle repart, mais en fait, elle est enceinte. Et donc, une fois rentrée chez elle accouche. Et donc, son fils s'appelle Ménélik. Et finalement, une fois devenue adulte, elle le renvoie auprès de Salomon. Il dit, voilà, je suis ton fils, etc. Bon, et finalement, il repart au royaume de Saba avec l'Arche de l'Alliance. Et ça, c'est une des histoires comme ça. Et c'est ce qui explique que l'Arche de l'Alliance est revenue au royaume de Saba. Plus tard, le royaume de Saba se déplace. Donc le royaume de Saba, c'est la pointe sud du Yémen, hein, c'est le vous voyez où c'est, hein, c'est le voilà, c'est le Yémen, quoi. Et le royaume de Saba était de l'autre côté, en Érythrée, l'Éthiopie moderne. Et le royaume de Saba s'étendait jusque là. Et puis petit à petit, la capitale va se transférer, justement, va se déplacer. Le centre de gravité du royaume va se déplacer du côté de l'Éthiopie. Et à l'heure actuelle, il y a un royaume en Éthiopie. Et les rois d'Éthiopie, encore à l'heure actuelle, disent « Nous sommes fils de Salomon, quoi. Fils de David, fils de Salomon, par la reine de Saba, par Ménélik, etc. etc. » Alors en fait, cette histoire, c'est en éthiopien, ça s'appelle, c'est un livre qui s'appelle le Kubranagast. En éthiopien, ça veut dire la gloire des rois. Si vous voulez étudier l'éthiopien un jour, c'est une très bonne idée. C'est une langue qui est très belle. Et vous pouvez en plus aller manger dans les restos éthiopiens. Ouais. C'est bon aussi. Il faut aller. Je ne sais pas s'il y en a à Strasbourg. Mais bref. Alors et donc du coup, il y a toute cette idéologie qui se développe autour de la reine de Saba. Mais c'est pas. Il n'y a pas qu'en Éthiopie qu'on a ça. Hein. Je vous dis, vous avez ça dans beaucoup d'autres textes de la littérature juive, chrétienne et musulmane. Enfin voilà. Donc. Voyez, mais donc c'est des histoires qui montrent un Salomon qui dépasse la légende. Regardez verset 23, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par sa richesse et par sa sagesse. Regardez verset 27, le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Si vous allez à Jérusalem, des pierres, il y en a beaucoup, hein, des cailloux. Jérusalem, c'est dans la montagne. Donc en fait, c'est du roche, c'est de la roche. Donc la pierre, c'est ça, c'est omniprésent. Donc de dire que l'argent, on se croirait à Marseille, quoi. Voilà, bref, donc je pense qu'il faut quand même être prudent dans ces passages-là. Autant je pense que les petits textes administratifs qui donnaient la liste des préfets, autant je pense qu'il y a une certaine crédibilité historique, autant là il faut se méfier dans ces versets-là. Bref, alors là encore, Salomon formidable, mais la fin, chapitre 11, trois problèmes vont entacher la fin du règne de Salomon. 1, les femmes, 2, les ennemis, et puis 3, finalement, un coup d'État. Alors, 1, c'est quand même les femmes, chapitre 11. Donc, voyez le rapport entre chapitre 10, la reine de Saba, hop, d'un seul coup. Verset 11, mais le roi Salomon avait aimé beaucoup de femmes étrangères. Voilà, c'est pas bien. Et donc, il se laisse entraîner, il est entraîné par l'amour. C'est ce qu'on nous dit à la fin du verset 2, c'est à eux que Salomon s'attacha, entraîné par l'amour. Ses femmes inclinèrent son cœur à la fin du verset 3. Autant de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. C'est terrible. Hein il bâtit, on nous dit verset 7, il bâtit dans la montagne qui est en face de Jérusalem. En fait, c'est le mont des Oliviers, mais c'est la pointe sud du mont des Oliviers, qu'on appelle le mont de. J'ai oublié le nom, mais c'est là qu'il y a la maison d'Abraham aujourd'hui. Enfin, si un jour on y va, je vous montrerai. C'est un lieu admirable. Et donc, il construit des autels à d'autres dieux. On nous dit Kemosh, Molech, etc. Et forcément, c'est pas bien. Donc, malheureusement, la condamnation va être que Dieu va donc déchirer. Il nous dit, verset 11, à la fin, Dieu décide, je vais déchirer le royaume pour te l'ôter et le donner à ton serviteur. Je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de David, ton père. Donc, il dit, voilà, j'attendrai que tu sois mort, mais... j'attendrai de sa mort. Et puis, par ailleurs, il dit, je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David. Donc, il dit, d'un côté, il y a cette promesse d'une dynastie éternelle, donc Dieu va rester fidèle à sa promesse. Ok, très bien, ta dynastie restera sur le trône, mais en même temps, ton royaume sera déchiré et pratiquement, tu perdras pratiquement tout. Et donc ensuite, on a des... Il a des ennemis, on nous dit, verset 14, verset 23. Et puis enfin, le fameux serviteur dont il est question qui va, faire le, qui va le, prendre sa place et qui va être l'agent, de, l'instrument du schisme, eh bien, ce sera Jéroboam, verset 26. Donc je passe ensuite les détails de la fin du règne de Salomon. Il meurt à la fin du chapitre 11. Et au chapitre 12, c'est là que se joue la question de la succession. Et c'est là qu'il va y avoir le schisme. Donc c'est vraiment, le chapitre 12, c'est un chapitre charnière dans le récit du livre des rois. On est à la fin du Xe siècle, hein, dans le dernier tiers du Xe siècle, on est vers 933 à peu près avant notre ère. Et là, le fils de Salomon, Roboam, est le successeur légitime sur le trône. Seulement voilà, le serviteur de Salomon, Jéroboam, fait un coup d'État. Il arrive à se mettre dans la poche les Israélites. Roboam est maladroit, les Israélites lui disent voilà ton père Salomon c'est, il a fait des grands travaux, c'est très bien, mais en même temps on a beaucoup travaillé, on a payé beaucoup de taxes, beaucoup de corvées, beaucoup machin, laisse-nous un peu tranquille. Et Roboam se dit mais non, mais si je fais ça je vais paraître pour faible, donc au contraire il se dit moi je vais être encore plus dur que mon père Salomon, en disant comme ça une main de fer, c'est comme ça qu'on tient le peuple. Politiquement c'était pas bien joué, puisque le peuple dit écoute, c'est comme ça, bye bye. Et finalement, Roboam, le fils de Salomon, reste bien en place à Jérusalem, mais il ne garde que le territoire de la tribu de Juda, donc la Judée qui est autour de Jérusalem et au sud de Jérusalem. Les 10 autres tribus au nord choisissent un autre roi, Jéroboam en l'occurrence. Et donc, on va avoir un grand royaume d'Israël au nord, un petit royaume de Juda au sud, et ça va être comme ça pendant 200 ans à peu près. Pendant deux siècles, il va y avoir donc deux royaumes qui vont cohabiter, des royaumes frères et ennemis, qui vont cohabiter jusqu'à la destruction du temple, du royaume du Nord, en 722 avant notre ère. Et ça, on va y venir, ce sera dans le deuxième livre des rois. On y viendra tout à l'heure. Et donc, il va y avoir ces deux royaumes côte à côte. Et donc, les chapitres qui suivent présentent une histoire synchronie, c'est-à-dire qu'on donne la liste des rois, un tel devint roi. Et à chaque fois, on donne l'année du roi d'en haut. Donc on jongle en permanence, on alterne en permanence entre le roi du nord et le roi du sud, le roi d'Israël et le roi de Juda. Et donc à chaque fois, on donne les années de règne et on compare à quel moment tel roi monte sur le trône à l'époque où on donne le nom de l'autre roi à Jérusalem. Alors c'est parfois compliqué parce que des fois, ils ont à peu près les mêmes noms. Donc on a à un moment donné pratiquement deux rois, le roi d'Israël et de Juda, à la même époque, qui portent le même nom. Donc on s'y perd. Donc quand vous lisez ces chapitres-là, essayez de bien faire la distinction entre roi du Nord, roi du Sud. Éventuellement, ayez sous les yeux une petite charte, un petit tableau chronologique, un truc comme ça, qui vous donne la liste des rois des deux côtés. Donc à partir du chapitre 12, comme ça, vous allez avoir une série de chapitres comme ça que je saute, où vous avez des notices pour chacun des rois. Alors je passe au chapitre 17. On est arrivé maintenant, donc c'était le 9e siècle, hein, grosso modo, ces chapitres-là couvrent le 9e siècle. Et, la fin du 10e siècle et le début du 9e siècle. Et on arrive au 9e siècle, au chapitre 17, avec un prophète qui sera donc le deuxième personnage principal du premier livre des rois, qui est Élie. Donc on avait Salomon jusqu'au chapitre 11, et à partir du chapitre 17, on a Élie. Élie est un prophète. Et il est prophète à l'époque où c'est Akab qui est roi en Israël. Vous voyez, verset 29, Akab, chapitre 16, verset 29, Akab, fils d'Omri, devint roi sur Israël. Je précise, à propos justement de ce roi Akab et de Omri, son père, que Omri est celui qui établit la capitale du royaume du Nord à Samarie. La capitale au sud, c'est Jérusalem, pas de problème, mais la capitale au nord, elle n'est pas fixée à Samarie avant Omri. Et c'est ce que vous lisez au verset 24. Omri devient roi sur Israël pendant 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirsa, il acheta à Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit une ville sur la montagne et appela la ville qu'il bâtit du nom de Samarie. Bon. Et on est en 886 avant notre ère à peu près. Les dates que je vous donne, c'est approximatif. Et c'est très intéressant parce que dans la littérature historiographique du Proche-Orient ancien, notamment dans les annales des rois néo-assyriens, quand on fait allusion au royaume d'Israël, on l'appelle en acadien Bit Humri, c'est-à-dire en hébreu on dirait Bet Omri, la maison de Omri. La maison, c'est la maison royale, c'est la maison où habite le roi, donc c'est son palais, c'est aussi la maisonnée, c'est aussi les gens qui l'occupent, c'est aussi évidemment sa maison familiale, c'est sa dynastie. Donc quand il est question de la maison d'Omri, en fait on parle de la dynastie d'Omri et du royaume fondé par Omri. Dans la littérature néo-assyrienne, le personnage qui est représentatif de ce royaume du Nord, ça n'est pas Jéroboam qui est à l'origine du schisme, comme on l'a vu au chapitre 12, mais c'est en réalité Omri, parce que c'est celui qui établit la capitale à Samarie. Et donc, pour les néo-assyriens, qui voient ça de très très loin, qui sont à plusieurs milliers de kilomètres, eux, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a une capitale et que c'est Samarie, et que le fondateur de cette capitale, c'est Omri, et donc pour eux, ce royaume, c'est le royaume d'Omri, c'est la dynastie d'Omri. Et de fait, il y aura une petite. Mais Omri aura une petite dynastie, il y aura quatre rois seulement. La dynastie d'Omri, c'est une dynastie classique, il y aura quatre rois, Akab notamment en fait partie. Et puis après ça, on passera à d'autres rois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un siècle plus tard, même si le roi en place à Samarie n'est pas un descendant d'Omri, pour les néo-assyriens, ils vont quand même dire que c'est la maison d'Omri. Pour eux, c'est comme ça. Donc, c'est à cette époque qu'apparaît le personnage d'Élie, qui va être le personnage central, le prophète par excellence de cette période-là, de la moitié du 9e siècle avant notre ère. Deuxième tiers du 9e siècle. Et à cause de l'iniquité, évidemment, des rois, etc., il dit, ben voilà, puisque c'est comme ça, il annonce la sécheresse. Chapitre 17, verset 1er, « Il n'aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et évidemment, il a des ennuis, il est obligé de se cacher. Alors, c'est des récits qui sont passionnants. Il y a des récits de miracles. Par exemple, il va à Sarepta. Sarepta, c'est aujourd'hui au Liban. C'est entre Tyr et Sidon. Si vous voulez au Liban, là, vous verrez, c'est sur la côte. Et il s'installe là-bas, mais elle n'a plus rien à manger, etc. Donc, il lui reste. Elle dit, verset 12, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et puis, elle dit, voilà, c'est tout ce qu'il reste à manger. On va manger, puis ensuite, on mourra. En fait, il fait un miracle, une sorte de multiplication de la farine et de l'huile. Autre miracle, son enfant meurt et Élie le ressuscite. Alors, quand on parle de résurrection, ce n'est pas le type de résurrection que celle qu'on a dans les textes eschatologiques. On parle de la résurrection des morts à la fin des temps. Ici, c'est juste une sorte de réanimation. Hein. Il le guérit, il le ramène à la vie, il le guérit, mais c'est une sorte de réanimation. Et tous ces signes servent à légitimer l'autorité d'Élie. Elle dit, à la fin du chapitre 17, verset 18, la femme dit à Élie, « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur, c'est-à-dire de Yahvé, dans ta bouche, est vérité. » C'est la façon de vérifier si c'est un bon prophète. Alors, il va y avoir un certain nombre d'épisodes. Au chapitre 18, on a un épisode célèbre, qui est l'épisode d'Élie face au prophète du Baal, sur le mont Carmel. Donc le mont Carmel, c'est au nord d'Israël, c'est pas très loin de Sarepta d'ailleurs, puisqu'il faut descendre, longer la côte, et on arrive du côté de Haïfa. Aujourd'hui en Israël, c'est la ville de Haïfa. Et le mont Carmel est là, surplombe la ville de Haïfa, et il veut démontrer que les prophètes de Baal n'ont pas leur place en Israël, et que c'est bien Yahvé qui est Dieu en Israël. Et donc il les met au défi en disant on va bâtir des autels, et puis ensuite on va pas mettre le feu, on va demander à chacun de nos dieux, moi je vais demander à Yahvé, vous allez demander à Baal, et puis vous verrez bien lequel des deux dieux va faire descendre le feu. Évidemment, ils en sont incapables, ils ont beau faire toutes les incantations possibles, ils s'ouvrent les bras, ou je sais plus ce qu'ils font, ils font des incisions, enfin bref, ça marche pas, et Élie se moque d'eux en disant mais bon, peut-être il est un peu sourd, peut-être il dort, votre dieu il vous entend pas, enfin bref. Lui, il en rajoute, parce que lui, de son côté, sur son autel, il met de l'eau pour empêcher le feu, en disant au cas où, combustion spontanée ou je sais pas quoi, si à cause de la sécheresse, ça prendrait feu tout seul. Non, il met de l'eau, tout ce qu'il faut pour que ce soit vraiment miraculeux. Évidemment, ça marche. Et après ça, il massacre tous les prophètes de Baal. Et le but, évidemment, c'est de démontrer la suprématie d'Yahvé. Alors, c'est un texte intéressant, parce que c'est un texte qui parle... Alors, les gens qui disent, ah, vous voyez, c'est bien un texte qui insiste sur le fait que Baal n'existe pas, n'est pas Dieu, et que le seul vrai Dieu, c'est Yahvé. Et on sait ce qu'on pourrait croire, hein. On dirait verset 21, chapitre 18, verset 21, « Si c'est Yahvé qui est Dieu, suivez-le, si c'est le Baal, suivez-le. » Donc, autrement dit, on a le choix, c'est soit l'un, soit l'autre. Et Savoir lequel est Dieu. Verset 24, vous invoquerez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de Yahvé, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Donc on a l'impression que c'est binaire et qu'il y a l'un ou l'autre et qu'un seul Dieu qui existe. Sauf que si vous regardez bien au verset 36, on nous dit bien, Élie prie et il dit que l'on sache aujourd'hui que c'est toi, Yahvé, qui es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, etc. Donc que c'est toi qui es Dieu en Israël. Et vous voyez, le en Israël est très important. On est dans une notion géographique. Les dieux sont des dieux territoriaux. Et donc la question, ce n'est pas de savoir si Baal existe ou pas. On n'est pas dans des questions de monothéisme, on n'est pas dans des questions ontologiques. On n'est pas dans des questions d'existence. On n'est pas dans ça. Il ne s'agit pas d'un monothéisme ontologique, il s'agit d'un monothéisme fonctionnel. Donc on appelle plutôt ça de la monolatrie. Hein, techniquement, c'est ça. On vénère un seul dieu. Les autres dieux, peut-être, ils existent, mais ils n'ont pas leur place ici. Alors, au chapitre 19, Élie s'enfuit, puisqu'évidemment, il vient de massacrer tout le monde et les gens ne sont pas très contents. Donc, Élie s'enfuit, il déprime. Pourtant, il vient de faire un miracle fabuleux. Et verset 4, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « Cela suffit, maintenant, Seigneur, prends ma vie », etc., etc. Et alors, on se dit « Mince, il vient de faire un exploit » et juste après, d'un seul coup, c'est la dépression, j'en ai marre, je veux mourir. Eh bien, c'est le syndrome du pasteur ou du prêtre aussi, je sais pas, mais c'est on a un week-end très chargé, on se donne à fond, il se passe plein de trucs, etc. Et puis le lundi, coup de blues, on se retrouve fatigué, etc., etc. Et voilà, on déprime, on dit ouais, j'en ai marre. Donc heureusement, il y a un messager divin qui vient, qui lui redonne des forces, et du coup, il va sur la montagne à l'Horeb, verset 8. Alors la montagne, c'est la montagne de l'Horeb, c'est là où est Moïse également. Il y va, il met 40 jours, 40 nuits, donc 40, le chiffre 40, les 40 ans dans le désert, etc. Ça évoque quelque chose. Donc on voit un parallèle, on présente Élie comme étant le nouveau Moïse. Et d'ailleurs, il a aussi une révélation divine sur la montagne de Dieu. Verset 11, le Seigneur passait, Yahvé, un grand vent violent, arrachait les montagnes et brisait les rochers devant Yahvé. Donc un peu comme, vous savez, Moïse qui rencontre sur le mont Sinaï, tout ça, quand il y a les tables de la loi, etc. Vous voyez, il y a les nuages, une nuée épaisse, le tonnerre, les éclairs, etc., etc. Tout ça, ça nous rappelle Exode chapitre 19. Mais sauf que là, précisément, on nous dit, Yahvé n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Yahvé n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Yahvé n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme, une voix ténue. Et alors, c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit un déplacement également. Non seulement on s'inscrit dans... Il y a une sorte de filiation avec Moïse. On dit, voilà, vous voyez, Exode 19, eh bien, on revit la même chose. Mais non seulement on revit la même chose, mais il y a un déplacement. C'est-à-dire que Dieu ne se manifeste plus au travers du feu, des éclairs. Non, 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 Dieu, il n'est plus dans tout ça. Maintenant, il est dans le calme. Il est dans ce petit vent léger, cette petite brise légère, etc. Et ça, c'est intéressant de voir cette nouvelle révélation que Dieu n'est pas simplement le dieu de l'orage. Alors, c'est intéressant surtout par rapport au chapitre précédent, puisque Baal est le dieu de l'orage. Les représentations iconographiques du dieu Baal, il est de profil et il tient comme ça à la main un éclair qui fait tomber à terre, etc., etc. Donc, le dieu Baal, dans l'iconographie cananéenne et levantine, c'est le dieu de l'orage. Et il chevauche les nuées, les montagnes, etc., etc. Donc, c'est le dieu guerrier, il a une épée. Donc, c'est le dieu de la guerre et de l'orage. Et là non, justement, on déplace, on dit non. Yahvé, c'est plus... ce dieu de l'orage, comme on pouvait le connaître avant. Maintenant, il y a un changement dans la perception qu'on a de Yahvé. Alors, je passe les chapitres suivants. Il y a encore des histoires, des récits de bataille, etc. Je ne peux pas étudier qu'est-ce que je vais vous dire encore. Il y a des histoires de faux prophètes, ça c'est assez régulier. Je vais passer directement au second livre des rois maintenant, pour terminer la fin de la vie d'Élie. En principe, ça aurait été bien de découper les livres en disant le premier livre des rois s'arrête avec Élie et puis le second livre des rois commence avec Élisée. Mais Élie empiète un petit peu sur le deuxième livre des rois, jusqu'au chapitre 2 en fait. Il va y avoir une transition entre Élie et Élisée. Alors Élisée, c'est le successeur d'Élie, c'est son disciple, son serviteur. Et son successeur, il reçoit l'onction. Dieu lui dit de donner l'onction à Élisée, son successeur. C'est ce qu'on nous dit C'est ce qu'on nous dit au chapitre 19, donc 1 Roi, chapitre 19, verset 16. Tu conféreras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, pour qu'il soit prophète à ta place. Et donc, c'est ce qui va se passer. Élisée va succéder à Élie. Donc, la transition, elle est racontée au début du deuxième livre des Rois. La fin, Élie a vécu une vie assez exceptionnelle. On a vu tous les miracles qu'il a fait, les prodiges, etc. Et c'est pas fini, puisque Élie ne va pas connaître la mort. Élie va être enlevé sous les yeux d'Élisée dans un char de feu vers le ciel. Chapitre 2, verset 11. « Comme il continua à marcher en parlant, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans une tempête. » Donc Élie ne connaît pas la mort. Élie ne meurt pas. Il part sur un char de feu jusqu'au ciel. Il n'est pas mort, il n'est pas enterré. En cela, Élie rejoint le personnage d'Enoch dans le chapitre 5 de la Genèse, qui lui aussi a été pris par Dieu. Chapitre 5 de la Genèse, on dit qu'Enoch ne fut plus car Dieu le prit. Donc Élie et Enoch sont les deux seuls personnages de la Bible hébraïque qui ne meurent pas. Et ce sont probablement les deux personnages qu'on retrouvera du coup dans la littérature apocryphe juive, y compris dans le Nouveau Testament, dans la littérature chrétienne, comme étant les deux prophètes de référence. Ils n'ont pas connu la mort. S'ils ne sont pas morts, ils peuvent revenir, de fait. Sans parler de résurrection, hein. Ils sont là quelque part, ils peuvent revenir. Alors, d'un autre côté, on a vu aussi qu'Élie s'inscrivait comme étant dans la même lignée que Moïse. Il fait cette rencontre avec Dieu sur le mont Horeb, etc., etc. Et on se dit, est-ce qu'on peut pas dire qu'il a connu un peu le même sort? Sauf que Moïse, techniquement, il est mort et enterré. On nous dit que c'est Dieu qui l'a enseveli, qu'on ne sait pas où il est enterré. Sauf que, je vous avais dit, quand on avait regardé ce texte, à la fin du Deutéronome, je lui ai dit, attention, dans d'autres traditions juives anciennes, même dans le texte biblique, il y a un peu un mystère. On ne sait pas où il est enterré, quoi. Oui, et puis c'est Dieu qui l'a enterré lui-même. Donc c'est pas les êtres humains qui l'ont enterré. Donc en fait, il est parti. Est-ce que Dieu l'a vraiment enterré ou pas? Si c'est Dieu qui l'a fait, s'il n'y a pas eu de témoin, qu'est-ce qu'on en sait? Si ça se trouve, finalement, Dieu l'a pas vraiment enterré. Si ça se trouve, Moïse, il n'est pas vraiment mort. Et c'est la pensée qui se développe dans le judaïsme à l'époque, où on dit, Moïse, il a disparu. Il a disparu. Alors, il y en a qui disent que Dieu l'a enterré, mais si ça se trouve, il n'est pas vraiment mort. Et de fait, c'est aussi... Donc, Élie se rapproche aussi de Moïse de ce point de vue-là. Donc, vous avez ces deux personnages, Élie et Moïse. Et puis, vous avez Enoch aussi, qui se balade un petit peu, qui est moins connu. Et vous allez les retrouver, évidemment, dans le Nouveau Testament, le monde de la Transfiguration, par exemple, etc., etc., dans le livre de l'Apocalypse, enfin, voilà. Donc, cet épisode d'Élie qui part sur des chars de feu est important, puisqu'il y aura toute une littérature qui va se développer, pas simplement autour du personnage d'Élie, mais de manière générale sur cette idée que des gens n'aient pas connu la mort, ou que des gens soient montés au ciel, et aient donc reçu des révélations extraordinaires sur les anges, la fin des temps, etc., etc. En tout cas, Élisée succède à Élie, et donc Élisée va être de nouveau le personnage principal du deuxième livre des Rois. Donc les chapitres 2 à 8 du deuxième livre des Rois, c'est Élisée le personnage principal. On le retrouvera un tout petit peu à la fin du chapitre 13. Et c'est presque un peu incohérent, puisque Élisée n'entend plus parler à la fin du chapitre 8, à partir du chapitre 9, et puis plof, à la fin du chapitre 13, hop, un petit passage, en fait il est mort et il fait quand même un miracle, même après sa mort. Mais donc grosso modo, le cycle d'Élisée, c'est chapitre 2 à 8. C'est le seul personnage principal d'une telle ampleur dans le deuxième livre des Rois. Après Élisée, on aura de nouveau, on rebasculera vers cette chronologie synchroniste, si vous voulez, cette historiographie synchroniste, où on alterne les rois d'Israël, de Juda, etc., etc., jusqu'à la fin du royaume d'Israël, au chapitre 17. Donc ça, c'est aussi le chapitre charnière. Le royaume du Nord sera détruit, le royaume de Samarie, chapitre 17. Et puis ensuite, les chapitres 18 à 25 décriront, raconteront l'histoire du royaume de Juda, jusqu'à la fin du royaume de Juda. Donc vous voyez le deuxième livre des Rois, grosso modo vous avez trois tiers, là encore trois grandes parties. Première partie, Élisée, chapitre 2 à 8. Deuxième partie, histoire synchroniste des deux royaumes, jusqu'au chapitre 17, fin du royaume. Et puis chapitre 18 à 25, histoire du royaume de Juda. Donc ça c'est pour que vous ayez en tête un peu des grands blocs au niveau des chapitres, pour vous y repérer quand vous lisez votre Bible, vous savez à peu près où est-ce que vous en êtes. Alors Élisée revit à peu près les mêmes choses que Élie, parce que c'est son successeur. Et en fait, il vit tout, mais en mieux. C'est là où Élie fait un miracle, Élisée en fait deux. Donc vous allez retrouver des histoires parallèles. Élie avait la veuve de Sarepta. Bah, Élisée, lui aussi, il a c'est pas une, bon, elle n'est pas veuve, c'est la femme aussi qui va avoir des... elle est shunamite. Alors c'est pareil, il va lui aussi... il va y avoir des miracles comme ça. Par exemple, comme quand Élie multiplie l'huile et la farine, et ben, il va faire pareil. Élisée aussi multiplie l'huile au chapitre 4. Élie a ressuscité on a vu là, le fils de la veuve de Sarepta. Eh bien, Élisée aussi va ressusciter un garçon, chapitre 4, verset 32, etc. Donc, en fait, toutes les histoires, tous les miracles qu'Élie va faire, vous allez trouver la même chose chez Élisée, et souvent, le plus longtemps, en double. Tu fais encore mieux, quoi. Donc, le disciple dépasse le maître. Donc, je ne vais pas rentrer. Toutes les histoires sont passionnantes. On n'a pas le temps de les regarder en détail. Des petites infos en passant. Par exemple, au chapitre 3, verset 4, il est question de Mécha, le roi de Moab. Alors, c'est un roi qui était totalement inconnu. Inconnu de l'histoire, par ailleurs, etc. Jusqu'à ce qu'on découvre au 19e siècle une stèle à Diban, dans une ville de Jordanie qui s'appelle Dibon, une stèle qui a été érigée par ce roi, Mécha, qui en plus se vante dans cette stèle d'avoir vaincu le roi d'Israël, précisément. Et alors, il mentionne Omri dans sa stèle, etc. Et puis, le fils d'Omri. Alors, bon, il faut comprendre que c'est Akab, etc. Donc, c'est très intéressant. Donc, il fait allusion à cette bataille qui est évoquée également au chapitre 3 du deuxième livre des rois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chapitre 5, guérison de Naaman. Et c'est intéressant parce que c'est aussi une réflexion sur qui est roi en Israël. On avait raconté une sorte d'Élie avec les prophètes de Baal en disant c'est Yahvé qui est Dieu en Israël. Eh bien, Naaman, c'est un Araméen et il a une maladie de peau et on lui conseille de venir voir Élisée. Et Élisée va lui dire « Plonge-toi cette fois dans le Jourdain ». Au début, il n'est pas très content, il ne veut pas le faire. Finalement, il le fait, il est guéri. Et du coup, il en conclut que effectivement, c'est bien Yahvé qui est roi, qui est Dieu, pardon. Et du coup, il dit « Mais moi, verset 15, chapitre 5, verset 15, « Je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Donc il dit « Moi, j'avais un Dieu en Aram, il n'a pas été fichu de me guérir. Toi, ton Dieu en Israël, il est capable. » Donc ça veut dire qu'en Israël, il y a bien un Dieu. Mais... Du coup, il reconnaît la suprématie d'Yahvé en disant « soit les autres n'existent pas, soit ils sont de toute façon impuissants », ce qui revient d'un point de vue fonctionnel au même, hein, qu'un Dieu n'existe pas ou qu'il existe mais qu'il fasse rien, quelle différence ça fait du point de vue subjectif de l'humain. Lui, tout ce qu'il en ressort, c'est que du coup, il veut servir Yahvé. Simplement, on est encore dans cette notion de Dieu territoriaux. Donc comment je fais, moi, en arabe, si je suis dans le territoire araméen, pour vénérer un Dieu qui est en territoire israélite? Eh bien, il repart avec de la terre. Il dit, verset 17, « Je te prie qu'on me donne à moi, ton serviteur, de la terre, la charge de deux mulets. » Donc il va prendre deux mulets et il va leur mettre des sacs de terre et il va les ramener avec lui. Comme ça, il pourra tapisser chez lui avec cette petite terre. Comme ça, il pourra se prosterner et il sera techniquement en terre d'Israël. Il sera sur la terre d'Israël, même s'il est à des centaines de kilomètres, parce qu'il sera parti avec des sacs de terre. Donc ça lui permettra de vénérer Yahvé, alors même qu'il n'est pas... dans les frontières géographiques du royaume d'Israël, mais il sera quand même en terre d'Israël. Donc c'est pour vous montrer à quel point c'est important à l'époque, cette notion de territorialité des dieux. On verra un peu plus loin qu'il y a des dieux territoriaux qui sont même des dieux, il y a des notions de géologie presque, il y a des dieux de montagne, il y a des dieux de montagne, des dieux de vallée, etc. On reviendra là-dessus tout à l'heure si on a le temps d'ici la fin de l'heure, mais... Donc il y a encore des... Bon, je vous passe, il y a des tas d'histoires de miracles. Élisée fait deux fois plus de miracles que Élie. À la fin du chapitre 8, c'est plus ou moins la fin de l'histoire d'Élisée. Et à partir du chapitre 9, on va avoir jusqu'au chapitre 17, donc des récits des rois d'Israël et de Juda. Alors, que retenir de ces chapitres? Il faut surtout retenir chapitre 9-10, le coup d'État de Jéhu. Je pense que c'est ça l'événement majeur. Chapitre 9-10, c'est ça l'événement majeur. Chapitre 9 et 10, il y a un coup d'État orchestré par Jéhu, donc au royaume du Nord. Et ce coup d'État de Jéhu est présenté comme positif. Vraiment, c'est un homme, alors que tous les rois du Nord sont tous mauvais, quand on disait les rois, ils n'obéissent pas à Dieu, etc. etc. Bon, eh ben, Jéhu, lui, ce qu'il fait, c'est bien. Il détruit les autels de Baal, il tue les prophètes de Baal, etc. etc. Donc le coup d'État de Jéhu est présenté comme positif. Et c'est ce qui a conduit certains exégètes à proposer que la première rédaction du Livre des Rois pourrait dater de l'époque du coup d'État de Jéhu. Et que Jéhu serait derrière la rédaction de... Voilà. Alors donc du coup, voilà, donc vous voyez, chapitre 10, verset 30, le Seigneur dit à Jéhu, « Parce que tu as bien agi en faisant ce qui me convenait, parce que tu as agi envers la maison d'Akab exactement comme je le voulais, tes fils seront assis sur le trône d'Israël jusqu'à la quatrième génération. » Donc grosso modo, il lui promet également une dynastie, donc de quatre générations. « Toutefois, Jéhu ne veilla pas à suivre de tout son cœur la loi du Seigneur, le Dieu d'Israël. Il ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam avait fait commettre en Israël. » Donc, on se dit, c'est bizarre, parce que Dieu vient dire, c'est bien, t'as bien agi, donc du coup, t'auras un successeur sur le trône. Et puis le verset d'après, il dit, oui, non, mais en fait, il a mal agi. Donc ça, c'est typique des rédactions ultérieures, où un premier rédacteur présente Jéhu sous un plan, sous un jour positif. Et puis derrière, 50 ans ou 100 ans plus tard, un autre rédacteur vient ajouter un verset derrière qui fout tout par terre. Donc oui, mais en fait, non. En fait, Jéhu n'était pas si bien que ça. Et vous verrez, ce sera pareil avec le roi Manassé, quand on comparera le livre des rois et le livre des chroniques. Les chroniques, on en parlera à la fin de l'année. Mais vous verrez, c'est la même chose. Vous allez avoir dans le livre des rois un personnage, un roi, en disant, voilà, lui, il est vraiment mauvais. Le roi Manassé, il est impie, c'est pas bien du tout. Et puis derrière, l'intérieur des chroniques, il reprend le même texte. Puis après ça, oui, mais attendez, à la fin de sa vie, il s'est repenti. Du coup, il était, et c'était un roi très bien finalement. Donc on voit comment on peut, hop, à coup de versets bien placés, on ajoute des versets là où il faut, on arrive à changer un peu le... Voilà. Alors, le roi Jéhu est mentionné sur l'obélisque noir que vous pouvez admirer au British Museum. Ce serait bien un jour si on pouvait aller faire des musées comme ça, comme le Louvre ou comme le British Museum, qui sont des musées qui ont des collections fabuleuses en rapport avec l'histoire de la Bible. Donc il y a l'obélisque noir qui a été érigé par le roi néo-assyrien Salmanazar. Et au deuxième registre, on voit, je pourrais vous montrer une photo, on voit le roi Jéhu prosterné devant le roi avec un vassal. Il est obligé, etc. Donc je peux même vous montrer la photo de Jéhu si vous voulez. Ah mais oui. Non, non, mais même pas en bas, juste là, la salle à côté, en salle 10, je crois. Je crois juste là, en salle 10, effectivement, dans une vitrine, on a effectivement une reproduction de ce petit registre. Si vous allez en salle 10, peut-être on ira voir ça tout à l'heure, 5 minutes, je vous montrerai ça. Bon, c'est pas l'original, hein, faut aller à Londres. Le musée est gratuit. Enfin, profitez-en, les musées londoniens sont tous gratuits, ils sont fabuleux. Bref, alors, après Jéhu, bon, il y a évidemment un état d'histoire dans les chapitres qui suivent. On est grosso modo, on attaque le 8e siècle, on a la fin du 9e siècle, hein, Jéhu, c'est encore le 9e siècle. Ensuite, on passe au chapitre 13, on parle de Joas, et là on bascule vers le 8e siècle de avant notre ère. Et donc on alterne, c'est des tas de petites notices, hein, les rois se suivent et se ressemblent. Et ils sont tous amenés à signer des traités de vassalité. Avec les néo-assyriens notamment. Hein. Et puis le chapitre 17, chapitre charnière, c'est la fin du royaume d'Israël. Salmanazar, roi d'Assyrie, attaque le roi Osée en Israël, le roi de Samarie, et il lui donne un tribut. Le roi essaie d'aller voir du côté de l'Égypte, puisqu'il y a deux, d'un point de vue géopolitique, vous avez deux grands empires. Vous avez l'empire néo-assyrien, c'est la Mésopotamie, vous avez l'Égypte. Donc ça, ce sont des empires énormes. Et puis au milieu, vous avez la toute petite bande de la côte méditerranéenne qui sert de zone tampon. C'est là qu'ils se tapent dessus. Et donc les rois, les petits roitelets d'Israël, de Juda, etc., ils sont tout en pris entre les empereurs comme ça, mésopotamiens ou égyptiens. Et ils vont tantôt être vassals de l'un, tantôt vassals de l'autre, en espérant que le fait d'être vassal, ça va les protéger. Mais, sauf que ce qu'on voit, c'est qu'en général, les suzerains, ils prennent l'argent. Et puis ensuite, le jour où il faut intervenir pour aider son vassal, on fait rien, quoi. Exactement ce qui se passe. Donc du coup, le royaume du Nord est détruit, la population est exilée. Alors le chapitre 17 nous explique longuement, tout en longueur, pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que Dieu a permis la destruction du royaume de Samarie? Il faut l'expliquer d'un point de vue théologique quand même. Dire, est-ce que Dieu était impuissant? Est-ce qu'il n'a pas été capable de défendre son peuple? Non. En fait, on vous explique, dans une longue tirade que je vous laisse le soin de lire, que c'est à cause de leur faute, de leur péché, que Dieu a eu beau envoyer des prophètes, mais qu'ils n'ont pas écouté les prophètes, qu'ils se sont obstinés dans leur péché, que donc finalement c'est comme ça. Bon. Et puis du coup, la population est déportée, et à la place, on vient mettre d'autres populations en Samarie. Donc on vient établir des gens, et là aussi on explique que ces gens, ce ne sont pas des vrais Israélites, et que du coup ces gens, ils vénèrent leur Dieu, mais qu'ils vénèrent pas que leur Dieu, qu'ils vénèrent également Yahvé. Hein, verset 33, chapitre 13, verset 33, « Ainsi ils craignaient Yahvé, mais ils servaient aussi leur propre Dieu. » Donc il y a une sorte de syncrétisme. Donc on vient critiquer la religion du royaume des Samaritains, en disant, attendez, les gens qui habitent la Samarie, ces Samaritains, en fait, ce ne sont pas des Israélites, parce que les Israélites ont été chassés, ce sont d'autres populations qui sont venues à la place, et cette autre population, attention, ils ont pas leur religion n'est pas correcte. Et ça, on voit que c'est une vraie problématique à l'époque perse, et ça, on découvrira ça plus tard, dans les livres d'Esdras, Néhémie, on voit que c'est une vraie problématique de savoir, finalement, est-ce que ces Samaritains qui ont un temple sur le mont Garizim, qui ont le Patateuk, qui disent, nous sommes, voilà, la loi de Moïse, etc., etc., on est plus israélites que vous, et les Judéens vont dire, non, 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 c'est pas vrai, vous n'êtes pas des vrais israélites. Donc là, on voit dans ce passage-là qu'on essaie d'expliquer en quoi est-ce que les Samaritains, ce ne sont pas des vrais israélites. Ensuite, à partir du chapitre 18, on a donc la dernière section du deuxième livre des rois, chapitre 18 à 25, c'est uniquement le royaume de Juda, puisque le royaume du Nord a disparu, et ça va être le royaume de Juda jusqu'à l'exil, entre 722, puisque la fin du royaume de Samarie, c'est 722 avant notre ère, jusqu'au début du VIe siècle, 587, grosso modo, où là, il y aura la destruction de Jérusalem. Donc, vous avez, pendant ces chapitres-là, deux personnages à retenir dans cette section 18 à 25. Vous avez un, Ézéchias, les chapitres 18 à 21, et deux, Josias, chapitre 22-23. Enfin, il y a deux personnages qui ressortent, qui sont des bons rois, si vous voulez. Ce sont des bons rois qui font des réformes, etc., et Dieu est content d'eux, parce que, voilà, les autres rois, ils sont tous mauvais. Alors, au chapitre 18-19, il y a le siège de Sennachérib, le roi assyrien Sennachérib assiège Jérusalem. Là encore, vous avez tous les... il y a Lachish, déjà, pardon, le siège de Lachish. Vous avez tous les bas-reliefs qui racontent la prise de Lachish, au British Museum, là encore. Et si vous allez sur le site archéologique de Lachish lui-même, vous avez encore la rampe d'accès des néo-assyriens quand ils ont attaqué la ville. C'est fabuleux. Il faut aller le voir, ce site archéologique. Il faut absolument qu'on aille faire un voyage en Israël. Et donc, bon, voilà, vous pouvez lire l'histoire, mais quand même, évidemment, Dieu le délivre. Alors, c'est très drôle parce que Sennachérib, dans ses chroniques, il dit, oui, le roi de Jérusalem était pris comme un oiseau en cage. Voilà. Et puis après ça, il raconte pas l'histoire de la fin du siège. Et en fait, quand un roi raconte pas la fin de l'histoire du siège, c'est parce que ça s'est mal passé. C'est parce qu'il est rentré bredouille. Et de fait, le texte biblique nous raconte que Sennachérib, finalement, n'a pas réussi à tenir son siège jusqu'au bout, jusqu'à la prise de Jérusalem, et il rentre bredouille. Donc là, c'est intéressant de voir que les données bibliques se retrouvent, en tout cas dans la trame générale, au niveau des chroniques néo-assyriennes. Ensuite, les chapitres 22-23, autre personnage majeur, Josias. C'est la réforme du roi Josias. Alors Josias, on est à peu près en 640 avant notre ère. Donc on est dans la deuxième moitié du 7e siècle. Alors que Ézéchias, c'est la première moitié du 7e siècle. Josias, c'est la deuxième moitié du 7e siècle. Et là, on nous raconte qu'on fait des travaux, chapitre 22, verset 5, des travaux dans la maison pour réparer les fissures. Et que là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui dit, verset 8, le grand prêtre dit, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. » Dans le mur, comme ça, on avait un vieux rouleau, etc. En fait, c'est le livre de la Torah, de l'instruction de Moïse, etc. Donc on dit, « Oh, on a retrouvé ça. » Et depuis très longtemps déjà, depuis le 18e, 19e siècle, on a les exégètes allemands notamment ont émis l'hypothèse en disant mais c'est quoi ce livre qu'ils ont retrouvé? En fait, c'est le Deutéronome. Et en fait, c'est pas qu'ils ont retrouvé le livre, c'est que c'est la rédaction du Deutéronome. C'est de dire le Deutéronome a été rédigé dans la deuxième moitié du 7e siècle avant notre ère, à l'époque de Josias. Et que cette fameuse. Alors finalement, ils retrouvent cette loi. Donc ils disent, oh là là, mais en fait, on connaissait pas tout ça, on savait pas, il faut respecter. Donc il y a toute la réforme religieuse au chapitre 23, il rétablit, il fait tout comme il faut, etc., etc. Il célèbre la Pâque, verset 21, chapitre 3, verset 21, célébrez la Pâque pour Yahvé votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre. On avait, verset 22, on n'avait pas célébré une telle Pâque depuis les jours où les juges gouvernaient Israël. Donc il y a cette idée qu'on restaure les institutions passées d'Israël. Et la théorie de traditionnelle, bon, qui est aujourd'hui, à un moment donné, tombée en désuétude, maintenant, certaines personnes reviennent à cette théorie, comme quoi, finalement, la rédaction du Pentateuque, c'est ça, c'est le 7e siècle avant notre ère, c'est la fameuse réforme de Josias. Voilà. En tout cas, retenez, réforme de Josias, chapitre 22-23. Et puis, à la fin, chapitre 24-25, c'est la fin du deuxième livre des rois, c'est la prise de Jérusalem par le roi Nabucodonosor. Il vient à plusieurs reprises, alors on nous explique là encore que si toutes ces choses arrivent, c'est parce que les rois sont mauvais. À part Ézéchias et Josias qui étaient des bons rois, tous les autres rois de Jérusalem sont mauvais, et donc finalement Dieu décide de les punir. Bon. Et donc, si Nabucodonosor prend la ville de Jérusalem et déporte la population, c'est pas parce que Yahvé était incapable de défendre son peuple, c'est parce que c'est une façon pour lui de punir, c'est un châtiment, une punition pour son peuple. Donc il emporte une première partie de la population en 597. Il y a un premier exil, et puis y compris le roi, il met un autre roi à la place, Sédécias, qui reste une dizaine d'années à peu près, et une dizaine d'années plus tard, rebelote, Nabucodonosor revient, on est en 587 avant notre ère, et là, cette fois-ci, non seulement il se contente pas de déporter une partie de la population, mais il va détruire carrément la ville, verset 9, il brûla la maison du Seigneur, donc le temple, la maison du roi, donc le palais royal, et toutes les maisons de Jérusalem, il mit le feu à toutes les grandes maisons, etc., etc. Il démolit les murailles, etc. Donc il exile tout le peuple à Babylone. Et donc à partir de là, le peuple va être pendant plusieurs décennies à Babylone, avant de revenir à la fin du VIe siècle avant notre ère, à l'époque perse. Entre-temps, Cyrus, le roi perse, les Mèdes et les Perses prendront le pouvoir sur les Babyloniens. Et donc, mais ça, ce sera une autre histoire. En tout cas, le livre des rois se termine sur une note assez triste, malgré tout, en disant, voilà, la population est exilée, le royaume est détruit, etc., etc. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui va se passer après? Il faudra aller voir du côté d'Esdras et Néhémie, pour avoir la suite de la chronologie. Alors la semaine prochaine, on va attaquer Isaïe. Je vous rappelle, donc on se retrouve à partir de midi maintenant au deuxième semestre. Tout le monde n'a pas eu l'info, malheureusement, je suis vraiment désolé, on ne peut pas toujours bien faire circuler l'info. Mais on ravance d'une demi-heure notre créneau au deuxième semestre pour des contraintes de salle, d'horaire, etc. Donc c'est de 12 à 13. Donc vous êtes les bienvenus tous les jeudis de 12 à 13. On se retrouve jeudi prochain avec grand plaisir. N'hésitez pas à inviter des gens autour de vous qui peuvent être intéressés, ils peuvent prendre en cours de route. Et on attaquera le livre d'Isaïe. Bonne semaine à tous.